Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le Club des Idées, les jeunes sont-ils en train de basculer à l'extrême droite? On en parle donc avec nos invités. Pourquoi? Car c'est ce que démontrent plusieurs grandes enquêtes d'opinion. Le Rassemblement National de Marine Le Pen serait désormais le premier parti des 25-34 ans. Un tabou est tombé, qui s'explique par plusieurs raisons, et notamment la peur du déclassement, on va en parler. Alors pourquoi les jeunes se sentent-ils aujourd'hui proches des idées du Rassemblement National? Et est-ce que le plafond de verre qui peut permettre de Marine Le Pen d'accéder à l'Élysée est en train de se fissurer? On en parle ce soir avec nos invités. Camille Vigogne-Lecouatte notamment, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique à l'Express, spécialiste de la droite et de l'extrême droite. On en parle également avec Frédéric Dabi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP, on a l'habitude de vous écouter le week-end sur l'antenne d'Europe 1. Frédéric qui va nous éclairer évidemment sur cette montée du RN dans la jeunesse. Et on en parle également avec Olivier Dard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Vous avez co-dirigé le dictionnaire du conservatisme aux éditions Cerf et le dictionnaire du populisme. Que vous avez devant vous d'ailleurs. Vous avez
Absolument.
Prévu de nous en lire un petit morceau.
J'ai hâte.
Alors je parlais de retournement, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, quand on avait 25 ans, on était plutôt porté à gauche, on était plutôt du genre Che Guevara. Aujourd'hui, c'est l'extrême droite qui fait rêver les jeunes, Frédéric Dabi?
Je ne dirais pas ça comme ça, mais ça peut bien être résumé. En effet, ça fait quand même longtemps, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, hein, le vote typique du Front National, ancienne époque, c'était un jeune ouvrier, issu des catégories populaires, faiblement diplômé. Maintenant, ce qui a changé, c'est que, du fait de sa force, Marine Le Pen devient une candidate attrape-tout. Elle n'a plus que trois catégories où elle est extrêmement faible, hein, les cadres supérieurs, les diplômés et les personnes âgées. Mais on voit qu'auprès, au sein de la jeunesse, il y a une véritable mutation. Quand Jean-Marie Le Pen, je fais par exemple référence à la présidentielle de 95, où il est arrivé en tête chez 18-24 ans, séduisait la frange la plus jeune de la jeunesse, c'est-à-dire les primo-votants, ceux qui votaient pour la première fois à une élection présidentielle, on voit, et ce n'est pas une véritable nouveauté. C'était le cas en 2017. Marine Le Pen avait fait un score assez médiocre chez les 18-24. Par contre, chez les 25-30 et 25-34, on y reviendra. La génération de l'insertion qui peine à s'insérer, qui craint, comme vous le disiez, Julien, le déclassement. Voilà, il y a un vote RN qui s'est complètement installé. C'est aussi le cas dans d'autres générations. Les 50-64 ans, le RN est fort dans les générations qui souffrent.
Il y a plein de ressorts, on va en parler. Il y a la jeunesse aussi de ceux qui incarnent dans les médias le Rassemblement National. Et puis il y a aussi un exutoire contre les politiques traditionnelles. Je voudrais d'abord vous faire écouter ce petit extrait sonore qui va vous rappeler quelque chose. C'était en 2002. Souvenez-vous des manifestations de la jeunesse quand Jean-Marie Le Pen était opposé à Jacques Chirac.
C'est important parce qu'on vit une heure très grave à mon avis pour la démocratie. Enfin, moi ça m'effraie, ça m'a fait froid dans le dos quand j'ai vu ça, j'ai honte.
Il faut que tous les jeunes passés 18 ans aillent voter, il n'y a pas d'autre solution.
Voilà, c'est un classique. Le Pen, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue. Camille Vigogne-Lecouatte, c'est fini ça aujourd'hui? Le Rassemblement National pour les jeunes, c'est un parti comme les autres?
En tout cas, c'est un parti qui fait beaucoup moins peur. La jeune génération est beaucoup moins marquée par le Front National de Jean-Marie. Elle n'a pas du tout vécu ces manifestations. On ne sent pas du tout la même animosité. C'est beaucoup plus facile de dire aujourd'hui qu'on est adhérent du Rassemblement National, qu'on est candidat au Rassemblement National. La preuve, c'est que beaucoup de jeunes s'engagent. Quand on a regardé les têtes de liste pour les élections municipales de l'année dernière, il y avait beaucoup de jeunes candidats qui avaient 19 ans, 20 ans, 21 ans, aucune expérience en politique et qui se lançait.
C'est vrai que ce que vous dites est important, la dédiabolisation avec le passage de relais entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen fonctionne énormément. Je lisais le papier du Monde qui était sur ce thème du Rassemblement National, nouveau parti favori des Français. Il y a beaucoup de jeunes qui le revendiquent, qui disent Jean-Marie Le Pen, moi je ne pouvais pas voter pour lui, mais par contre Marine Le Pen c'est différent.
Il y a une accoutumance qui est due à deux choses. La première chose, c'est que ces idées, elles sont de plus en plus acceptées, de plus en plus répandues. Il y a une accoutumance au langage du Rassemblement National et de l'extrême droite dans la parole publique. Mais il y a aussi le fait même que le parti a changé. On n'utilise pas et on ne joue pas sur les mêmes ressorts. La dédiabolisation, ça a été un slogan, ça a été un affichage, mais c'est aussi une réalité. Il n'y a pas du tout les accusations d'antisémitisme, par exemple, qui pouvaient faire extrêmement peur il y a 10 ans, 20 ans. Elles ne sont plus du tout présentes. Et c'est des ressorts qui était très efficace chez les jeunes.
Et pourtant, dans la coulisse du Rassemblement National, il y a encore des visages qui incarne notamment ce vieux Front National et ses idées que vous évoquez. On en parlera peut-être tout à l'heure. Olivier Dard, quel est le ressort pour vous qui fait que les jeunes adhèrent aujourd'hui à l'extrême droite? Est-ce que, je le disais, c'est un exutoire? Est-ce que c'est une adhésion de conviction? Ou c'est le symptôme de la défiance des jeunes envers les partis traditionnels? Vous diriez quoi?
D'abord, je commencerai par dire, mais excusez-moi, d'un point de vue historique,
je vous en prie,
que ce n'est pas, au fond, si nouveau que cela. Et quand on regarde toute l'histoire de ces droites nationalistes depuis le début du XXe siècle, on voit qu'il y a un enjeu très particulier autour de la jeunesse, oui, de ces idées, de ces mouvements.
Il y a une dynamique quand même.
Oui, alors là, il y a effectivement quelque chose aujourd'hui d'étonnant. C'est effectivement ces chiffres que vous donnez. Et peut-être aussi un autre élément qui est que cette jeunesse qui vote Front National n'a pas de véritable écho dans, par exemple, l'enseignement supérieur, les universités, etc. Mmh. Alors que ça a été, pendant très longtemps, certains lieux où ces milieux étaient influents. Alors, parmi les éléments que vous avez indiqués, l'exutoire sans doute, oui, je crois qu'il y a un élément aussi qui est important. C'est au fond le sentiment que peuvent avoir un certain nombre de ces jeunes de se sentir à la fois déclassés, isolés, marginalisés dans leur propre pays. C'est-à-dire qu'on parle des jeunes, il faut bien voir de qui on parle. Mmh. On ne parle absolument pas, évidemment, de ces jeunes diplômés qui sont, effectivement, aujourd'hui comme hier, rétifs au Rassemblement National.
Donc c'est un vote des jeunes qui n'est pas tout à fait homogène, c'est ce que vous dites.
Mais je ne crois pas que la jeunesse, si vous voulez, la jeunesse comme catégorie sociologique n'a jamais été forcément homogène. Et là, en l'occurrence, quand on parle des jeunes, oui, je crois qu'il faut un petit peu préciser les choses.
Bien.
D'où ils viennent et à quelle catégorie sociale.
Vous avez raison de le faire, mais je parlais de dynamique. Je voudrais simplement redonner les chiffres. Hein. Marine Le Pen, selon les enquêtes d'opinion, engrangerait 6 points supplémentaires entre 2017 et 2022. À date, donc, elle passerait de 23 à 29% chez les 29-34 ans, ce qui fait qu'elle est le premier parti effectivement des jeunes. Après l'abstention, évidemment, Frédéric Dabi. Mais il y a quand même une dynamique.
Oui, vous avez raison. En faveur du RN. Le premier comportement électoral chez les jeunes, on l'a vu aux européennes, aux municipales et même c'est à la présidentielle où sont les données IFOP, on avait un tiers de jeunes. Ça fait beaucoup dans une logique d'extrapolation qui n'avait pas voté le 23 avril 2017. C'est vrai qu'il y a des jeunesses. S'il y a en revanche un point commun chez tous les jeunes, aussi bien les 18-24 qui ont été moins tentés par voter Marine Le Pen en 2017, oui, ils ont surtout voté Mélenchon, oui, pas mal Emmanuel Macron, et ces 25-30-25-34 qui sont cette génération qui souffre. S'il y a un point commun, c'est la motivation, oui, du vote RN. Dans une enquête IFOP fiduciale pour le JDD de la semaine dernière, on voyait que le vote de protestation, le vote tribunicien était toujours l'apanage des électeurs qui avaient voté au moins une fois au Rassemblement National, 65%, chez les moins de 30 ans. C'est un vote d'adhésion. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, qui reprend ce que vous avez dit sur le FN qui ne sent plus le souffre.
On adhère aux idées du Front National. On verra d'ailleurs que les idées du Front National, elles ont évolué. Il nous reste quelques secondes avant une première pause, Camille Vigogne-Lecouët. Je voudrais simplement vous entendre sur cette dynamique pour prolonger ce que vient de dire Frédéric Dabi. C'est vrai que le vote des jeunes n'est pas homogène, mais quand même, dans l'ensemble de la population et de la jeunesse, 46% des jeunes estiment que le FN est un parti honnête. 49% qu'il est capable d'avoir une vision pour la France. On aurait posé la même question il y a 30 ans. Je ne pense pas qu'on aurait eu les mêmes réponses.
Tout à fait. Et ce sont ces chiffres qui expliquent aussi pourquoi toute une partie de la jeunesse qui ne vote pas Rassemblement National, mais qui vote plutôt à gauche habituellement, ne veut pas, déclare aujourd'hui, ne pas vouloir faire barrage en cas d'accession, oui, au second tour. Et là, le vrai changement, il est là, il est dans cette non-mobilisation de la jeunesse, oui, à voter contre Marine Le Pen. Parce que puisqu'elle ne fait plus peur, puisqu'elle ne semble plus si infréquentable, nous n'avons pas besoin de nous mobiliser et de voter contre. Et Marine Le Pen, elle compte finalement beaucoup plus sur ceux-là qui n'iront pas voter que pour ces jeunes qui lui sont acquis depuis un certain temps.
Bien, on continue d'en parler. 19h29, à tout de suite avec nos invités. 19h32, c'est donc la suite du Club des Idées. On continue évidemment de parler des jeunes et de leur rapport à l'extrême droite, car c'est vrai que le Rassemblement National de Marine Le Pen est devenu, selon les enquêtes d'opinion, le premier parti des 25-34 ans. Alors, on évoquait l'un des ressorts aussi de cette popularité chez les jeunes, chez une partie de la jeunesse en tout cas, c'est le rajeunissement des figures du parti. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait ce jeune. Il s'appelle Raphaël, il a 20 ans, c'est un militant Rassemblement National des Alpes-Maritimes. C'était juste avant les municipales, au micro de Claudia Bertram.
Je pense qu'on est le parti qui met le plus en avant les jeunes. On a eu la plus jeune députée de France, on a eu le plus jeune candidat aux européennes. J'attends et je sais que ça arrivera du parti qui l'investisse et qui donne l'investisseur à beaucoup de jeunes.
Voilà, ça joue ça aussi, Olivier Dard, vous êtes historien. Jordan Bardella, qui squatte par exemple les plateaux de télévision, il a quoi, 22 ans, c'est ça ?
23 ans.
23 ans.
Bien sûr que ça joue. Et ça signifie aussi d'ailleurs que ce parti est aussi un parti d'opportunité pour un certain nombre d'individus qui veulent faire de la politique. Et ce qui me paraît aussi important à souligner par rapport à la dynamique qui est celle de Marine Le Pen, c'est de comprendre au fond qu'elle a installé un clivage. Un clivage qu'elle renouvelle d'ailleurs, dont elle renouvelle les termes, mais en prenant la tête ou en préemptant la souveraineté, la nation, etc., toutes choses qui aujourd'hui sont importantes, et en particulier face à l'actuel président de la République, je pense que c'est absolument essentiel. Mais c'est elle qui joue le rôle de l'opposante.
Si vous me le permettez, Olivier Dard, avant d'aller sur le débat d'idées, sur cette histoire de rajeunissement des générations et des figures du parti, ça pour le coup c'est vraiment nouveau. Est-ce que vous avez le sentiment que ça envoie aussi à la jeunesse l'idée d'une identification et d'une politique un peu nouvelle, voilà, pour dire les choses ?
Bien sûr. Parce que si vous voulez, ces gens sont, qui ont 22, 23, 24 ans sont beaucoup plus à même de parler à leur propre génération, avec leur propre vocabulaire, leurs propres préoccupations, etc. Mais là où Marine Le Pen se débrouille assez bien, c'est qu'elle joue sur cette génération. Mais n'oublions pas aussi que par rapport au régional, elle est en mesure de présenter un certain nombre de candidats qui, eux, ont été blanchis sous le harnais. Donc il y a un double travail. Oui, Thierry Mariani, etc. Il y a un double travail par les jeunes et par les plus anciens.
C'est vrai. Camille Vigogne-Lecouat, vous êtes journaliste et spécialiste de la droite et de l'extrême droite à l'Express. Sur cette idée d'identification, c'est-à-dire que les jeunes se disent « Ah bah tiens, j'ai l'impression d'être plus représenté, d'être plus proche du Rassemblement National parce qu'il y a des gens qui me représentent et qui sont un peu comme moi. »
Tout à fait, ça joue comme un effet de miroir. Et l'exemple de Jordan Bardella est évidemment le plus frappant parce que c'est une réussite incontestable. Mais au-delà de ça, là où il y a une réussite de Marine Le Pen, c'est qu'elle arrive à faire passer une absence de choix pour une volonté politique et stratégique.
Qu'est-ce j'avais que vous
beaucoup,
dire par là,
j'avais
de
beaucoup
choix.
Vexé les jeunes têtes de liste aux municipales en publiant dans l'Express un papier qui disait pour les municipales, le Rassemblement National fait le pari des jeunes, faute de mieux. Parce que évidemment, ils n'ont pas, dans la mesure où leur implantation locale est en deçà de tous leurs objectifs, est très très faible, ils n'ont pas la ressource en cadre, ni en quantité, ni en qualité, pour permettre d'investir dans les endroits stratégiques uniquement des personnalités expérimentées et capées. Donc, on parie sur les jeunes de 19, 20 ans, 21, et on dit, on a fait le pari de la jeunesse. Il ne faut évidemment pas tomber dans le panneau.
Oui, c'est le marketing, ça fait partie de la politique. Non, mais ce que vous dites, d'ailleurs, sur les ressources humaines, c'est une problématique qui pourrait se poser si demain Marine Le Pen arrivait à l'Élysée. Est-ce qu'elle a les capacités pour créer un gouvernement et aussi changer les têtes pensantes dans les administrations, Frédéric Tabi?
C'est une vraie question. D'ailleurs, c'est pas comment dire nouveau. En 2014, aux élections municipales, quand le FN, à l'époque il s'appelait le FN, gagne une dizaine de villes, il met comme tête de liste et comme futur maire des gens comme Fabien Engelmann, comme Julien Sanchez, des gens jeunes. Parce qu'il y a une difficulté à recruter, une difficulté à fidéliser. Je crois qu'il y a un gros quart de conseillers régionaux élus en 2015 qui ont quitté les instances régionales. Alors, où je nuancerais un tout petit peu, quand on interroge les jeunes eux-mêmes, notamment les primo-votants, on fait régulièrement avant chaque élection des enquêtes pour l'ANASECH, ils sont moins sur une logique, ils sont bien sûr parfois, mais pas complètement sur une logique identificatoire. Je vois très bien pour quelqu'un de moins de 30 ans, quelqu'un qui me ressemble. Les électeurs jeunes sont un peu des électeurs comme les autres. Ils attendent des résultats, ils attendent un projet, et ils attendent que les candidats respectent la promesse du politique en France, à savoir changer la vie, transformer le quotidien et peser sur le cours des choses.
Oui, mais si vous me permettez une réflexion de comptoir, il y a quand même l'idée qu'avant le Front National avait cette image d'un peu de vieux grognard et qu'aujourd'hui...
Le rajeunissement a touché tout le monde, parce que le dégagisme, par exemple, aux élections municipales de 2014, je reviens là-dessus, la droite aussi a mis en avant, je pense à Robin Reda, des candidats extrêmement jeunes, et également le PS en 2020, ou Europe Écologie et Les Verts. On a parlé très récemment ici des propos d'Éléonore Monconduit, la maire de Poitiers, elle a, je crois, 30 ans.
Oui. Alors, je voudrais qu'on parle du débat d'idées aussi qu'agite le Front National et le Rassemblement National par extension, parce que c'est vrai qu'il y a eu une évolution, comme le disait Olivier Dard. Le virage socio-économique de l'extrême droite, est-ce qu'il a joué dans cette normalisation chez les jeunes? Vous me répondrez dans quelques secondes. D'abord, on va se replonger en 1980. À l'époque, dans un spot de campagne, Jean-Marie Le Pen répond à un journaliste. À l'époque, le patron du Front National n'est pas encore la star politique qu'il est devenu, et son modèle, il est de l'autre côté de l'Atlantique.
On dit que vous êtes le Ronald Reagan français. Qu'est-ce que vous en pensez?
Eh bien, écoutez, j'en pense qu'on me fait beaucoup d'honneur. Et j'en accepte l'augure, en quelque sorte, puisque Ronald Reagan, qui était un homme politique américain très peu connu des Français il y a encore quelques mois, est donné actuellement par la plupart des observateurs politiques comme ayant de très grandes chances de remporter les élections américaines.
Voilà, on se souvient que le FN était donc historiquement un parti libéral d'inspiration américaine. Le programme du FN était d'ailleurs anti-État-providence. Et puis, depuis l'arrivée de Marine Le Pen, comme ici en 2011, vous allez voir que le discours a changé.
La clé, c'est l'État, en le remettant au service du peuple. Et pour cela, enchasser les coucous qui en ont fait la courroie de transmission des volontés des multinationales et de l'hyperclasse mondiale.
Voilà. D'ailleurs, le mot État dans ce discours, il est prononcé 40 fois. Olivier Dard, est-ce que ça aussi, ça participe à normaliser chez les jeunes le Rassemblement national et l'extrême droite ?
Peut-être, mais il faudrait voir dans quelle mesure, si vous voulez, ils ont tout à fait conscience de ces évolutions et ce que signifie pour eux...
tout cas, aujourd'hui, c'est un parti souverainiste, voilà. Et très social, le Rassemblement
oui,
national.
Alors, si vous voulez, par rapport à ce que vous disiez...
C'est pas le grand méchant capital, comme c'était le cas avant.
D'accord, mais n'oubliez pas non plus, vous parliez de Ronald Reagan par rapport à Jean-Marie Le Pen.
Oui.
N'oubliez pas que Jean-Marie Le Pen vient aussi du poujadisme et qu'il a constamment défendu tout ce qui était le monde des artisans, des petits commerçants, etc., etc. Alors, simplement, il y a effectivement une différence de fond. C'est une méfiance radicale de la part de Jean-Marie Le Pen sur ce qu'il appelait l'État fiscaliste, bureaucratique, etc.
Oui.
Et ce discours que porte Marine Le Pen d'une conception de l'État et d'un rapport à l'État qui, là, tranche avec ce qu'avait été pendant des décennies le discours des droites nationalistes sur le sujet. Là-dessus, je suis d'accord.
D'ailleurs, Camille Wigong-Lequoit, il y a quelque chose d'assez amusant à noter, c'est que dans une tribune récente, Marine Le Pen s'est prononcée pour le remboursement de la dette publique. Il est loin le temps, j'allais dire, où elle militait pour une sortie de l'euro. Là aussi, on s'est normalisé quand même sur les questions économiques.
Là aussi, parce que vous avez diffusé Marine Le Pen, mais on pourrait aussi avoir Marine Le Pen il y a 5 ans ou il y a 10 ans, et Marine Le Pen aujourd'hui, il y a à nouveau un changement. J'étais avec elle ce midi, elle donnait une conférence de presse, et beaucoup d'éléments sont donnés en faveur des électeurs, on va dire, de François Fillon. Mmh. Elle les rassure sur la dette, elle les rassure sur l'euro, elle les rassure sur les entreprises. Et là, ce qui est intéressant, on parle beaucoup des jeunes, et évidemment, c'est bien de parler de la jeunesse, mais là, c'est pas les jeunes qu'elle veut rassurer.
Ouais.
C'est ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est les personnes âgées, c'est les épargnants, c'est ceux qui vont voter. C'est ceux dont on est sûr qu'ils mettront le jour J un bulletin de vote dans l'isoloir, ce qui n'est absolument pas forcément le cas des jeunes.
Vous savez mieux que moi, d'ailleurs, Camille, sans doute, ce que disent les proches de Marine Le Pen en off. Ils déclarent il n'y a plus rien à prendre à gauche. Marine Le Pen sait que le chemin le plus court est à droite pour la présidentielle. Frédéric
c'est
Dabi.
Pas complètement faux. C'est vrai que quand on regarde déjà le poids quantitatif de la gauche, c'est un véritable effondrement par rapport aux années François Hollande, même par rapport à la fin du quinquennat. C'est vrai qu'au premier tour, on a fait très récemment une enquête pour Marianne auprès de 2500 électeurs. Elle a beau faire un 28%, ce qui est un très gros socle, elle ne prend que 5% de sympathisants de gauche. Et c'est très clairement, vous le disiez extrêmement justement, déjà qu'elle est forte chez les 50-64 ans, une génération un peu symétrique de ces 25-34 ans qui, elle, est poussée dehors dans le cadre des difficultés à rester dans les entreprises, qui voient la retraite comme non pas comme l'Eldorado, mais comme la continuation des problèmes, et qui, à titre intime, subit et est touchée par la dépendance de leurs proches. Et là, elle a bien vu que là où il y a vraiment beaucoup de voix à prendre, ce sont ces retraités de droite, électeurs de François Fillon. Dans cette enquête, elle prend 12% d'électeurs Fillon. Ça paraît peu, mais ça fait 2,5 points.
Alors, Marine Le Pen à l'Élysée, possible ou pas, on en parle juste après la pause. À tout de suite, 19h41. 19h43, suite du Club des Idées, on parle de la jeunesse et du Rassemblement National, qui est désormais, donc, selon les enquêtes d'opinion, le premier parti des 25-34 ans. Alors, j'avais prévu de vous poser la question à vous, Olivier Dard, mais on va peut-être faire un tour de table. Vous êtes historien, je le rappelle. C'est une question pas facile que je vais vous poser. Arnaud Montebourg, le lapsus. Arnaud Montebourg dit aujourd'hui au Financial Times, Marine Le Pen va gagner en 2022. Va gagner en 2022. Est-ce que c'est votre sentiment ?
Je serais plus prudent. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle n'a jamais été si près qu'aujourd'hui, de pouvoir gagner. Simplement, vous savez comme moi qu'à un an d'une élection, c'est difficile.
Oui.
Mais par rapport à ce que nous disions avant la pause, n'oublions pas quand même que le succès aussi de Marine Le Pen s'explique aussi par la situation de LR.
Oui.
Et on parlait des électeurs de LR, je pense qu'un certain nombre sont en déshérence.
Des jeunes qui, de plus en plus, adhèrent aux idées du Front National, par conviction, vous l'avez dit, par rejet de l'élite politique D'ailleurs, c'est assez amusant de noter que Marine Le Pen fait quand même partie d'une certaine manière de l'élite politique, mais c'est ainsi. Et puis, la fracture du Front républicain, vous l'évoquiez tout à l'heure, Camille Vigogne-Lecouatte, il n'y a plus de Front républicain aujourd'hui. Il y a plein d'électeurs de gauche qui disent « moi, je ne me déplacerai pas si Marine Le Pen est face à Emmanuel Macron ». Donc, les signaux pour elle sont au vert quand même.
C'est évidemment un signal à regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention, parce que c'est ce qui pourrait être déterminant, la mobilisation du camp d'en face ou la contre-mobilisation. Et c'est pour ça que Marine Le Pen, si vous regardez, elle travaille excessivement son image en ce moment. Elle est souriante, elle donne de grands entretiens sur sa personnalité, elle met en avant le fait qu'elle est mère de 3 enfants, qu'elle a souffert, qu'elle a des cicatrices, parce qu'elle ne veut... C'est pas tellement qu'elle cherche à attirer plus de monde, c'est qu'elle veut absolument rassurer ceux qui pourraient tenter une mobilisation contre elle. Évidemment, ce point est déterminant. Après, nous sommes à un an de la présidentielle, et ce qu'on dit, le fait qu'un électeur de gauche déclare aujourd'hui « je vais pas aller voter parce que le Front National, parce que ma claque, parce que Macron, j'en peux plus », c'est très différent de le dire un an et une semaine ou la veille du vote. Donc, il faudra évidemment reprendre tout ça dans les dernières heures avant le vote.
Frédéric David.
Vous savez, que donnaient les sondages IFOP en avril 2016 ? Ça donnait des seconds tours à Alain Juppé, Marine Le Pen. Emmanuel Macron n'était pas systématiquement testé. On l'a testé pour la première fois en avril ou en mai 2016. On prend bien, comme vous le dites très bien, on ne connaît pas l'offre électorale. Et le second tour, c'est le produit d'un premier tour et les dynamiques de campagne. Il y a aussi un point qu'il faut avoir en tête. Je ne dis pas qu'il va se passer obligatoirement, mais Marine Le Pen n'est pas une bête de campagne présidentielle. Elle n'a jamais connu de dynamique. Celle en 2011, elle est devant Nicolas Sarkozy dans quelques enquêtes. Et 2016-2017, elle est très largement en tête. On sait comment ça se finit. Et on n'a pas parlé encore du débat d'entre-deux-tours qui reste un acte lourd sur lequel elle doit travailler.
Quel est, Olivier Dard, là aussi c'est une question pas forcément évidente, quelle est aujourd'hui la colonne vertébrale idéologique du Rassemblement National et de Marine Le Pen ?
Écoutez, je ne sais pas bien. Je ne sais pas bien, parce que si vous voulez, en 2 ans, elle est passée au fond d'une profession de foi populiste. Bon, où elle expliquait ce qu'était le peuple central, c'est-à-dire le peuple moins français, moins toutes les minorités, a aujourd'hui un discours où elle dit « je suis national ». Alors, « je suis national » vu de droite, ça veut dire quelque chose. Là, ça la ramène très directement aux années 30, ou par la suite, à ce qu'aurait d'ailleurs pu dire son père en disant « je suis l'opposition nationale ». Alors, je pourrais vous faire une synthèse en prenant Pierre-André Taguieff et en vous disant que c'est du national-populisme, mais je crois que le problème qui se pose est un problème de colonne vertébrale, et c'est aussi, et je crois que c'est important dans sa démarche, et c'est là où elle est très différente de son père. Son père avait un certain nombre d'idées qu'il proposait, on les appréciait, on les appréciait pas, mais il y avait une cohérence.
Oui.
Là, elle joue beaucoup plus une politique, en quelque sorte, de l'offre, pour essayer d'attirer à elle, ou de ne pas effrayer, ça je crois que c'est un élément aussi très important, un électorat qui, à défaut de voter pour elle, pourrait déjà ne pas aller voter pour les autres.
Voilà, c'est ça la réalité, Camille Vigogne-Lecouatte. On pêche un peu à droite, on pêche un peu à gauche, mais elle manque de colonne vertébrale. Elle a des convictions, parce qu'on dit souvent, sa nièce, c'est une idéologue, qui a des convictions très fortes. Est-ce que c'est le cas aussi de Marine Le Pen ? Vous savez, au moment du mariage pour tous, par exemple, elle avait manifesté son opposition au mariage pour tous. Et puis, dans l'intimité, on avait dit, en fait, elle est pour le mariage pour tous. Voilà. Quelle est sa colonne vertébrale idéologique ?
Sa colonne vertébrale idéologique, elle est fluctuante. D'ailleurs, elle le théorise elle-même. Ce midi, elle disait dans les journalistes j'écoute, chaque fois que je dois me poser une question, je me demande qu'est-ce qui est bon pour la France et je tranche. Et donc, en fonction des moments, ça change et mon point de vue change. Je résume, je paraphrase, mais l'idée était exactement celle-ci. Donc, évidemment, on peut se poser la question de la colonne vertébrale. Après, il reste les fondamentaux du Front National devenu Rassemblement National.
L'immigration,
la sécurité, une approche où elle sait qu'elle n'a pas forcément besoin, par ailleurs, d'en faire des tonnes, parce qu'elle est déjà très très marquée sur ces thèmes.
Parce que les questions économiques vont avoir une place importante avec la crise sociale qui s'annonce et la crise économique. Là aussi, il faut qu'il y ait des marqueurs forts, parce que sur les questions économiques et sociales, elle rejoint par exemple d'une certaine manière la France Insoumise, Arnaud Montebourg aussi, interventionniste, colbertiste, protectionnisme, Frédéric Déby.
C'est vrai que la colonne vertébrale de Marine Le Pen pose question, mais celle de ses électeurs beaucoup moins, immigration, insécurité, dans un contexte...
Y compris chez les jeunes ?
Oui, y compris chez les jeunes, c'est vraiment les vecteurs... Alors, c'est l'insécurité, c'est une insécurité aussi culturelle. Dans l'enquête IFOP fiduciale pour le JDD, on avait bien vu que les idées de Marine Le Pen, dans l'imaginaire de l'extrême droite, étaient quand même validées par une majorité de Français. La France qui tombe,
le déclin, on a perdu notre souveraineté, on se sent en sécurité nulle part. Et puis, ces dimensions d'insécurité culturelle, ces dimensions identitaires, qui sont les seules dimensions aujourd'hui qui arrivent à émerger malgré la crise sanitaire.
Identité culturelle, il faut bien dire les choses quand même. Ça veut dire une forme de nostalgie d'une France blanche et un peu...
Je ne dirais pas ça, c'est une sorte d'âge d'or.
D'âge d'or.
Complètement fantasmé, parce que l'âge d'or est un fantasme, c'est un mythe politique d'un moment où la France faisait commun. Et c'est quelque chose qui est très fort dans les motivations de vote chez les jeunes. Comme chez les moins jeunes, c'est peut-être le ciment du vote RN aujourd'hui.
Olivier Dard, sur ce point.
Oui, et j'ajouterais aussi que je pense que tous les discours sur la repentance, etc., exacerbent ce sentiment. C'est-à-dire, au fond, il y a, chez cette partie de la jeunesse, une volonté de s'affirmer, d'être, comme ils disent, on est chez nous, et de considérer, si vous voulez, que...
Vous êtes en train de me dire que chez un jeune de 25 ans, la repentance sur la guerre d'Algérie qu'il n'a pas connue,
ça... au sens large, pas la repentance coloniale. Non, si vous voulez, c'est pas uniquement la question de la guerre d'Algérie. C'est, par exemple, le rapport à l'histoire nationale, qui peut être discuté, contesté, etc. Alors qu'on sait très bien qu'effectivement, en histoire, on est constamment en train de faire des compromis. Là, je pense que ce qu'il est important de comprendre, c'est que la nation, pour eux, paraît être quelque chose auquel il se raccroche.
Oui.
Et ça, je pense que c'est essentiel.
Moi, je mettrais une petite nuance. Je ne sais pas si c'est les discours sur la repentance qui déclenchent ces jeunes-là, ou si c'est ceux qui fustigent la repentance, c'est-à-dire les discours qu'on va entendre chez Éric Zemmour, qui est par exemple très populaire chez les jeunes, et qui utilise toute cette matière-là pour infuser son discours bien au-delà du Rassemblement national sur cette France en péril, cette France qu'il faudrait sauver, avec l'appel aux grands héros nationaux et cette peur qui résonne avec la peur de l'immigration, avec la peur de la différence, parce que finalement, le pays est assiégé, le pays est menacé. Et évidemment, ça fait partie des terreaux sur lesquels Marine Le Pen prospère.
Bien. Frédéric Dabi, pour terminer, vous maniez l'opinion avec talent et brio. Vous êtes un...
Avec prudence également.
Un analyste très pertinent, évidemment. À partir de quel moment, de quelle dynamique on peut dire que, Marine Le Pen a vraiment des chances de gagner en 2022 ?
C'est difficile. Je dirais d'abord quand l'offre sera finalisée. Et là, il n'y a pas les échéances de la primaire de droite ou du PS, comme en 2016-2017, qui donnaient des bornes temporelles. Moi, je regarde des indicateurs. Il y en a un qui est mauvais pour Marine Le Pen, mais qui va en s'améliorant. C'est une phrase qu'on pose tous les trois mois. Elle a la stature d'une présidente de la République. Elle s'était effondrée, cette stature, cette carrure, après le fameux débat d'entre-deux-tours. Oui. Et là, il y a quelques semaines, on a reposé cette question avec Fiducial pour CNews. Et pour la première fois, le score de oui, qui restait faible, c'était en gros un petit tiers, revenait au-dessus de ce qu'il était avant ce fameux débat catastrophique.
Bon, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Merci à tous les trois pour ces éclairages. C'était absolument, comme chaque soir, passionnant. Et on en reparlera, évidemment, de la politique et du Rassemblement national. Merci.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.